provoqué, on peut dire, qui n'a pas suscité l'unanimité. Voilà, c'est ça qu'on peut dire, hein. C'est-à-dire qu'on m'a vraiment fait le reproche d'avoir pris un temps de parole à Martine pour le donner à Jean-Claude Tchet, qui a expliqué que lui, toutes ces histoires de politique et tout, c'était plus tellement sa tasse de thé, que lui, il était retiré dans son pays basque natal et qu'il attendait les Cosaques ou le Saint-Sacrement, voire les deux, posément et sereinement. Alors il y a eu beaucoup de réactions, il y a eu une centaine de réactions, majoritairement négatives, je dois dire, ce qui me surprend toujours un peu parce que je n'arrive, et ça c'est peut-être ma curiosité professionnelle, ma curiosité de journaliste qui fait ça, je comprends mal qu'on puisse être irrité par un discours auquel on n'adhère pas. On n'est pas forcé d'être d'accord pour écouter les gens. On peut aussi écouter des gens avec lesquels on n'est pas d'accord. Alors, j'ai eu une lettre d'un monsieur qui m'écrit assez souvent, et ces lettres sont toujours fort bienvenues car elles sont intelligentes et drôles. Et alors, je vais la lire parce que ça résume assez bien l'ensemble des réactions des auditeurs en ce qui concerne l'intervention de Jean ou Jean-Marie Curuchet. L'invité de votre émission du 26 était des plus sympathiques, mais il a beaucoup manié le paradoxe, semble-t-il. En fait, je crois qu'il poursuivait des buts thérapeutiques. Il a sans doute voulu nous faire toucher du doigt ce qui est la somme de nos mots. Et il y a beaucoup de vrai dans ce qu'il a dit, et provoquer ainsi une révulsion, pardon, au sens médical du terme. Néanmoins, certaines expressions m'ont fait tiquer. Il a prétendu être un sage du Pays basque. D'abord, sage est un vocable que je tiens en horreur. Ça date de l'époque où je portais des culottes courtes. Et puis, c'est au sage chinois, vous savez, ces fameux trois sages, le premier se bouche les oreilles, le deuxième se voile la face, etc., qu'il m'a fait penser quand il nous parlait de son confort dans son village basque et de son indifférence pour tout ce qui se passe ailleurs. Ouais, on connaît ce genre de sagesse, c'est celle de l'autruche. Et aussi, il nous a dit, comme pour nous consoler, c'est un cycle. Eh bien, quand on a affaire à un mauvais cycle, ce n'est pas en philosophant qu'on s'en tire, mais c'est en mettant des bâtons dans les roues du cycle adverse. Je pense d'ailleurs que je prêche l'inconverti. Enfin, il nous a avoué qu'il avait appartenu un temps à la franc-maçonnerie. C'était une erreur de jeunesse, manifestement. On la lui pardonne, puisqu'il s'est confessé en public, mais qu'il continue à battre sa coupe pendant au moins un an. Je trouve un peu sévère sur les pénitences, hein. Et puis après, il écrit des choses sur la franc-maçonnerie, que je vais lire d'ailleurs, parce que je vois pas de raison de les passer sous silence. Car la franc-maçonnerie, on en a ras-le-bol, ou plutôt plein le nez. C'est quasiment tous les jours qu'on entend parler d'elle. La manif du 16 janvier, les frangins étaient derrière. Et puis voyez l'extrait joint du Figaro du 4 janvier 94. On nous promet pour cette année un timbre à la gloire de la Grande Loge de France. L'an dernier déjà, on avait eu droit à un timbre maçonnique, que vous avez salué d'ailleurs comme il se doit. Trop, c'est trop. Et puis, cela dit, d'une année sur l'autre, il y a une petite évolution qui n'est pas des meilleures. L'an dernier, Zuccarelli avait opéré en catimini. Il avait émis son timbre hors programme. Aujourd'hui, Longuet opère au grand jour, comme si le coup d'encens annuel aux francs-maçons était une chose qui allait de soi. Et il termine, vous débouchez les oreilles de vos enfants pendant 2 secondes. Il termine en disant, putain de République. Point d'exclamation. Voilà, ça, hein. Ça me paraît... Vous croyez qu'il va aller en prison? Non, pas encore, c'est à partir du mois de mars qu'on va en prison quand on dit du mal de la République. Donc il faut en profiter. Voilà cette lettre qui résume assez bien les réactions de nos auditeurs. Cela dit, il y a aussi des auditeurs qui ont beaucoup aimé. Et pas mal d'auditeurs qui m'ont dit, mais c'était intéressant, oui, bon, il a le droit de s'exprimer, etc. Voilà. Je fais une toute petite revue de presse rapide pour vous dire qu'il y a un papier, bon, je dis ça toutes les semaines, mais tant pis, hein. Il y a deux papiers à lire absolument cette semaine. Il y a un papier à lire demain. Le papier de Madiran dans présent, qui est une analyse, à chaque fois ça m'énerve parce que j'aurais voulu l'écrire, sur la façon dont dont Washington prétend prendre la place de Moscou pour administrer la France. Et c'est un formidable papier qui commence ainsi. Pendant 70 ans, le communisme soviétique depuis Moscou a prétendu dénoncer dans le monde entier ce qui, aux yeux de la morale marxiste-léniniste, apparaissait comme des injustices et insurger contre elles les populations. Washington prend la relève et s'arroge un magistère analogue, prétendant contrôler chaque année comment sont respectés ou violés les droits de l'homme dans le monde. Le département d'État américain dénonce ce qui lui paraît contraire à la conception américaine des droits de l'homme. Sous ce prétexte, il condamne condamne la République française, son gouvernement, sa justice, sa police, qui maltraite les Noirs et les Maghrébins, laisse perpétrer les agressions des skinheads contre la population juive et admette qu'aucun responsable de Vichy n'ait encore été jugé et condamné. Je dois dire que, on va encore me reprocher de faire de l'anti-américanisme primaire, mais vraiment, de quoi je me mêle? De quoi je me mêle? C'est vraiment la peste qui vient tirer les bacilles du rhume des foins. Enfin, c'est incroyable. Ce peuple où tous les jours les nègres s'entretuent avec les juifs, que ce soit à New York, à Los Angeles, où il y a des centaines de morts, une violence épouvantable, où les droits de l'homme sont bafoués quotidiennement, les boîtes de droits de l'homme à vivre, tout simplement. Ces types viennent nous donner des leçons. Ces assassins minables de la CIA, parce que pendant des années, ils ont tenté des coups les plus tordus les uns que les autres, qui ont tous foiré lamentablement. C'est des péteux, c'est des nulâtres. Ils sont encore plus mauvais que le SDEC et que le KGB. Ils viennent nous dire, mais comment en France, comment vivez-vous, mais de quel droit? Vraiment, on a envie de dire à cette espèce de Goofy. Vous savez, moi je trouve qu'il ressemble à Goofy Clinton. Vous savez, comme ça. Ah, on a envie de lui dire, occupe-toi de tes affaires. Hein. Alors le papier de...
Toute l'erreur a été de soutenir les démocrates américains. Il fallait soutenir les loyalistes qui luttaient contre la révolution américaine. C'est la grande erreur de Louis XVI est là. Les loges ont ensuite pris le pouvoir, mais nous vivons véritablement... Washington est un assassin d'officiers français. Il faut bien voir que Washington a assassiné le chevalier de Jumonville par traîtrise. Le chevalier de Jumonville, qui était porteur d'une lettre du marquis, du commandant des troupes de Louisiane et du Canada, et qui portait cette lettre vers ce fort américain qui était commandé par Washington. Et Washington, au mépris de toutes les lois de la guerre, a fait tirer sur lui, l'a assassiné. Et nous avons ensuite supporté cette guerre. Vive les loyalistes anglais qui ont lutté contre les démocrates américains.
Ouais, en fait, c'est pas parce qu'on n'aime pas les Américains qu'on est obligé de soutenir les Anglais quand même. Moi je crois qu'il faut réunir tout ce petit monde dans une détestation collective bien sentie. Hein. Genre, je me place uniquement sur le plan historique. Sur le plan humain, j'aime beaucoup les Américains et j'aime encore plus les Anglais, c'est évident. Ce sont mes frères, ce sont des êtres humains après tout. Hein. Donc on les aime, c'est clair. Mais historiquement, alors ce que vous venez de nous dire, professeur, c'est on peut en avoir le développement dans une de vos œuvres dont on n'avait pas l'intention de parler ce soir, mais on peut quand même en évoquer la parution ces jours-ci. C'est une histoire de la Louisiane française, 1682-1804, qui vient de paraître aux éditions Perrin.
Tout à fait.
Et qui est un livre, si on veut savoir avant d'acheter le livre, ce qu'il y a dedans et s'il est intéressant, on peut lire un excellent papier de Michel de Flandre dans un excellent journal qui s'appelle Le Libre Journal de la France Courtoise. Je signale d'ailleurs que l'adresse a changé. Je dis ça parce que si vous voulez vous abonner, les 600 francs, il faut les envoyer maintenant, 139 boulevard Magenta, 75010 Paris. Ça n'est plus l'ancienne adresse que je ne donnerai plus. C'est 139 boulevard Magenta, 75010 Paris. Non pas boulevard de Magenta. Je préfère boulevard Magenta parce que ça lui donne une couleur. Donc autrement, ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre?
Vous avez un téléphone, non?
Oui, 42-80-09-39, c'est ça? Voilà, 42-80-09-39. Voilà. Alors, j'ai pas l'habitude je disais qu'il y a un autre papier à lire, oui, aussi, cette semaine, comme d'habitude. D'ailleurs, c'est le Brignot dans National Hebdo qui est formidable, où il démontre comment les laïcs ont, en quelque sorte, privé de substance religieuse l'enseignement scolaire, mais d'une façon systématique, et il cite des exemples tout à fait étonnants.
Pourvu qu'on lui prête vie.
C'est extraordinaire, non? C'est-à-dire qu'ils sont allés jusqu'à réécrire les fables de la Fontaine pour pas qu'il y ait le bon Dieu dedans. Et alors il parle de mesureur, ce crétin prodigieux de mesureur qui avait trouvé le truc, il fallait éradiquer le bon Dieu. Et alors il avait dit, c'est très simple, on va faire une loi spéciale, une des lois mesureur, on va interdire le recours au mot saint. Alors, il avait trouvé, il avait dit, la rue des Saints-Pères, on appellera ça la rue des Pères, la gare Saint-Lazare, ça deviendra la gare Lazare, et ainsi de suite. C'est...
Et puis le Tour de France de deux enfants, qui a été complètement transformé.
Alors, lire ce papier de Brignot dans National Hebdo demain, et lire le papier de Madiran dans présent d'aujourd'hui, qui sera encore en vente demain matin. Il n'y a pas que ça d'ailleurs, il y a aussi un papier de Lugan sur l'Afrique. Je parie que vous ne le saviez pas, professeur.
Oui, sur la situation en Afrique du Sud.
Les nationalistes africanaires, oui, qui rejettent tout compromis. Alors, je vais dire un message. Monsieur de Bekech, qui est russe, insulte les Anglais. C'est curieux, il n'insulte jamais les Allemands. De grâce que Monsieur Ferré le fout en l'air de cette radio. C'est signé anonyme, comme on dit, vous savez. Il y a des messages comme ça qui sont signés anonymes. Alors, je voudrais reprendre quelques erreurs. D'une part, je ne suis pas russe, je suis français. D'autre part, je n'insulte pas les Anglais, puisque j'ai dit qu'ils étaient tout de même des êtres humains, donc on ne peut pas me reprocher d'insulter les Anglais. Troisièmement, me faire le reproche à moi de ne jamais insulter les Allemands, c'est très rigolo, surtout quand on demande à Monsieur Ferré de me foutre en l'air de cette radio, car il faudrait savoir, cher auditeur, puisqu'il semble que ce soit un auditeur, que j'ai été viré de Radio Solidarité pour avoir dit que les Allemands nous emmerdaient depuis assez longtemps et que ça commençait à bien faire. Alors, j'ai été viré d'une radio pour avoir insulté les Allemands, je serai viré d'une autre pour insulter les Anglais, ce qui me paraît d'ailleurs assez douteux. Je pense qu'un jour on me virera pour avoir insulté les Français, probablement. Non, monsieur, je n'insulte pas les Anglais. Ils n'ont pas du tout besoin de moi d'ailleurs pour ça. Alors j'ai pas l'habitude de faire de la publicité pour Le Monde, mais il y a un papier de Daniel Schneiderman ce soir. Si vous trouvez Le Monde dans une poubelle demain matin ou après-demain, vous pouvez chercher la page 23. Et il y a un papier sur une émission hier que personne n'a vue puisque c'était sur Arte et que ça s'appelle Transit. Alors, je veux dire qu'une émission sur Arte qui s'appelle Transit, on se dit qu'on va laisser ces gens-là à leurs querelles intestines. Et l'invité, c'était en plus l'abbé Pierre. Il y avait toutes les raisons de ne pas le regarder. Mais pourtant, moi, j'ai regardé. Et effectivement, j'ai assisté à un débat qui était fascinant. C'était monsieur Cohn-Mandy, Daniel Cohn-Mandy, qui disputationnait avec l'abbé Tagle de la question de la virginité de la Vierge, figurez-vous. Alors, Notre-Dame était-elle vierge ou pas? Alors, l'abbé... Il a dit que vraiment il s'en foutait, que c'était ça l'intéressait à peu près autant que le dernier de ses caleçons molletonnés. En revanche, quand on lui a demandé s'il était important d'assister à la messe, il a dit non, surtout pas. Non, ça n'a aucune importance d'assister à la messe. Ce qui pour un abbé, c'est un peu comme un boucher qui dirait mais vous pouvez manger du poisson autant que vous voulez, ça n'a aucune importance. Alors voilà, donc il y a un papier de Daniel Schneiderman qui dit la chose suivante. Évadé de sa statue, l'abbé Pierre... il faut que je lise un peu avant. Pour les besoins de cette exploration, Transit avait fait appel à un spécialiste précieux, l'abbé en personne, car fait sans précédent, ce n'était pas l'abbé en colère, le phénomène abbé que le comte avait invité sur son plateau, mais bien l'abbé observateur du mythe abbé Pierre, l'abbé derrière l'abbé. Est-ce que l'abbé Pierre, c'est quelque chose de français, demanda par exemple le présentateur. Ou encore, est-ce un phénomène qui touche l'ensemble de la planète? Ainsi réifié, le quelque chose, le phénomène se prêtait de bonne grâce à l'investigation. Évadé de sa statue, il la considérait avec intérêt, comme reposé de se trouver pour une fois à la télévision sans devoir pousser une colère. Comme s'il ne désirait rien tant, lui aussi, que d'explorer le mystère de sa popularité. Pensait-il qu'Eugen Dreverman fut le Luther du XXIe siècle? Non, il ne faut pas exagérer. Si un miséreux venait lui avouer en confession avoir tué un usurier, c'est Dostoïevski, hein, lui conseillerait-il de se rendre à la police? Non, certainement pas. Estimait-il important d'assister à la messe? Surtout pas. Croyait-il à la virginité de la Vierge? Peut-être, si vraiment on y tient. Et de discuter avec Daniel Cohn-Bendit comme dans l'arrière d'un café du quartier latin, comme dans l'arrière-salle d'un café du quartier latin. En fait, l'abbé, le vrai problème que soulève Dreverman, c'est celui de l'Église et des femmes. D'accord, c'est là un point très important. À l'entendre et surtout à contempler les mines des importants qui l'entouraient, on ne pouvait s'empêcher de penser que les curiosités se trompaient de cible. Dans notre dévotion à son endroit et dont l'empressement journalistique offrait un étrange concentré, le vrai mystère est-il en lui ou en nous? On eût aimé que l'abbé se retournât vers tous les puissants qui lui ouvraient leurs studios et leurs colonnes, vers les caméramens qui l'enserraient à la sortie de RTL, vers les auteurs de pieux ouvrages, il en est paru suffisamment ces jours-ci pour remplir un rayon de bibliothèque, vers tous les porte-voix de ce tonitruant anniversaire, vers nous tous enfin pour autopsier sans indulgence le mystère de cet amour-là. Et quand on sait lire entre les lignes et derrière les mots, on s'aperçoit que c'est une véritable volée de bois vert pour l'abbé Tagel, qui est pris en flagrant délit d'auto-adoration. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour l'instant sur le plan de l'actualité. L'actualité française. Ah non, il y a quand même une petite chose. Vous savez qu'il y a une tradition maintenant dans cette émission qui consiste à donner la lecture d'un... Enfin, donner des extraits d'un journal de 1914, de la même période. Alors là, j'ai un journal qui s'appelle L'Autorité, pour Dieu et pour la France, fondateur Paul de Cassagnac, du lundi 2 février 1914. Alors il y a un papier qui démontre, on se croirait vraiment 80 ans plus tard, il y a un papier qui explique que notre diplomatie est faite par des imbéciles. Il y a un papier qui explique qu'il faut quand même se méfier des Allemands. Vous voyez que j'en dis aussi du mal des Allemands. Il y a un papier sur M. Caillot, inventeur de l'impôt sur le revenu et sur le capital, qui n'est pas véritablement un papier favorable. Il y a un papier sur l'abbé Lemire, célèbre personnage du temps, à qui on a refusé la communion. Un incident, nous dit le journal, s'est produit hier matin à l'église d'Asbrook. À la messe de 6h, le doyen a refusé la communion à l'abbé Lemire, qui avec d'autres fidèles s'était approché de l'autel pour recevoir ce sacrement. Vous voyez que déjà, ça allait bien dans l'église. Il y a un papier magnifique sur la fête de l'aviation militaire, en présence de Monsieur Poincaré. On annonce les obsèques de Monsieur Paul Desroulèdes, qui venait de mourir. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on célébrait ses obsèques. On présente également diverses inspections du général Lyautey au Maroc, un incident à Rabat. C'est pas à Alger, là, c'est à Rabat. Un Français blessé par un indigène. C'est Monsieur Presti, pharmacien, qui avait été grièvement blessé d'un coup de hache par un indigène de la tribu des Haïssois. Et puis, on annonce également qu'un rentier a tiré sur un banquier, place de l'Étoile. Et alors, ce qui est inquiétant, je vais vous lire le texte quand même, vous allez voir, puis après, je vous lirai autre chose qui ne laisse pas d'être inquiétant. Bon, enfin, 80 ans plus tard, il n'y a pas lieu de s'affoler. Un rentier tire sur un banquier, place de l'Étoile. Vers 3h, place de l'Étoile, une tentative de meurtre a été commise sur un banquier connu qui a reçu 4 balles de revolver tirées par un rentier. Monsieur Henri Lartigue, âgé de 54 ans, vice-président de la Société française de construction de câbles métalliques, demeurant 17 rue Leroux, passait place de l'Étoile quand il fut accosté par un homme qui, sans maudire, tira sur lui 4 coups de revolver. Grièvement blessé, Monsieur Lartigue tomba, tandis que froidement, le meurtrier jetait son arme et se laissait arrêter par les agents accourus au bruit des détonations. La victime a été transportée à l'hôpital Beaujon. Son état paraît assez grave et l'on a dû différer l'extraction des projectiles. L'auteur, entre parenthèses, il savait écrire à l'époque. L'auteur de l'agression est un nommé Maurice Chevalier. Rentier, âgé de 40 ans, demeurant 29 rue Saint-Augustin. Bien qu'il ait refusé de répondre aux questions de M. Parnet, commissaire de police, on croit pouvoir attribuer à des raisons d'intérêt l'acte criminel du rentier. Il a été dirigé sur le dépôt dans la soirée. Et alors je vous disais, ce qui est inquiétant, c'est que dans une autre page du journal, on lit l'information suivante, ou plutôt l'annonce suivante, à propos d'un rentier qui tire sur un banquier, mais ça n'a rien à voir. C'est « Afin d'éviter des frais inutiles à nos lecteurs, on tire à vue sur les abonnés. » Voilà. Et je voudrais aussi très rapidement lire un papier pour vous montrer que l'autorité pour Dieu et pour la France, au fond, c'est un petit peu l'ancêtre du libre journal. Parce que nous, on est pour l'autorité, on est pour Dieu et on est pour la France. Donc, et ce qui m'inquiète, parce que parfois je lis dans le libre journal des papiers avec lesquels je suis pas parfaitement d'accord, de certains collaborateurs, bon, par exemple, les goûts de Pierre Monnier pour l'art contemporain, parfois me surprennent un petit peu. Et je lis donc ce numéro de l'autorité pour Dieu et pour la France, et je lis l'article suivant. Qui n'a entendu parler du musée des horreurs de Courtelines ? L'auteur de Bouboroche rappelle le cri de Paris, voulant se constituer une galerie, a imaginé de recueillir les croûtes les plus infâmes qu'il découvrirait chez tous les brocanteurs. La collection qu'il a formée ainsi ne lui a pas occasionné grandes dépenses et elle lui a procuré les plus douces joies, sinon les plus hautes. Aux heures de mélancolie, le bon Courtelines n'a qu'à contempler ses trésors artistiques pour se sentir une saine gaieté lui réchauffer le cœur. Parmi les chefs-d'œuvre ridicules auxquels il a donné asile sous son toit, se trouve une toile du fameux douanier Rousseau. Elle représentait une femme décolletée, couchée sur un canapé rouge au milieu d'une forêt vierge. Courteline avait payé cela 20 francs, c'était beaucoup, mais il n'avait point lésiné car cette peinture était vraiment d'un comique irrésistible. L'autre jour, il la montre en riant à un amateur d'art moderne. L'autre, au lieu de partager l'hilarité de son hôte, tombe subitement en extase. « Quelle merveille » soupire-t-il, « je vous en offre 6 000 francs. » Courteline a accepté le marché et s'est séparée sans trop de regret de son abominable Rousseau. Est-ce que par hasard, toutes les pièces de son musée des horreurs auraient monté dans les mêmes proportions? En art, rien n'est impossible. Et c'est quand même amusant de découvrir qu'en 1914, dans la presse bien, la presse pour Dieu et pour le roi, on considérait que le douanier Rousseau était un farceur. Voilà, professeur, un commentaire sur cette actualité ancienne.
Ah non, la relativité des choses et la versatilité des opinions publiques.
Et ce qui est amusant, enfin ce qui est curieux, c'est qu'on a beau lire et relire, on est en février 14, donc on est mars, avril, mai, juin, juillet, 6 mois exactement avant la déclaration de guerre, 2 février 14. Il n'y a pas un mot, sur l'éventualité d'un conflit avec l'Allemagne, ou d'un différend. On peut lire le journal de la première à la dernière ligne, pas un mot.
Oui, mais si vous lisiez d'autres quotidiens peut-être plus importants, vous auriez ces références. Il est frappant, c'est un exercice que je donne souvent à mes étudiants, de comparer les titres de la grande presse aujourd'hui avec ceux de la période qui précédait la guerre de 14 ou d'autres grands événements, et l'on constate qu'après la parenthèse qui a suivi cette horrible guerre civile européenne qui était la guerre de 14 et la mise entre parenthèses de l'Europe, on constate aujourd'hui, maintenant que le rideau de fer est tombé et maintenant que le communisme a disparu, officiellement disparu, on constate que l'Europe revient véritablement au centre des grands problèmes et que les titres qui faisaient la première des journaux avant la guerre de 14 refont la première des journaux aujourd'hui également. C'est assez frappant de voir que, en fait, finalement, dans ce domaine, rien n'a changé. La question balkanique, les problèmes des nationalités dans le Caucase, les tensions en Europe centrale, tout se repose. L'Europe redevient véritablement le centre du monde. Et malheureusement, nous n'avons pas conscience.
L'histoire ne se répète pas, elle bégaye. Alors, ces vieux journaux, vous pouvez les trouver dans un endroit qui est un endroit merveilleux, ça s'appelle la Galcante. C'est 43 rue de l'Arbre Sec, dans le premier arrondissement à Paris, et c'est là que vous trouvez cette petite merveille qu'on appelle le journal de votre anniversaire, c'est-à-dire le journal du jour, le journal paru le jour de votre naissance. Et c'est très amusant de voir qu'en général, pas la moindre allusion n'est faite à votre naissance dans des journaux. Vous pouvez regarder, par exemple, 12 décembre 1946, moi j'ai recherché, il n'y a pas une seule fois, le célèbre journaliste Serge de Beckett vient de naître à Tours. C'est pas indiqué une seule fois. Donc c'est bon pour l'humilité, en fait. Je connaissais l'histoire, naturellement, du général Hugo qui se présente à l'état civil et qui dit « Je viens déclarer la naissance de mon fils ». Alors l'employé d'état civil lui dit « Quel nom ?» Alors il dit « Hugo ». Et « Quel prénom allez-vous lui donner ?» Victor. L'employé d'état civil lui dit « Vous êtes le père de Victor Hugo, permettez-moi de vous féliciter ». Voilà. Bien, c'était notre minute de sérieux hebdomadaire. Alors, professeur Lugan, cet atlas s'appelle l'Atlas de l'Afrique. C'est un numéro spécial de la revue que vous avez créée il y a maintenant quelques mois, qui s'appelle l'Afrique réelle, par référence naturellement au pays réel, expression bien connue surtout sur Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Donc c'est un atlas qui se présente de façon très classique. C'est d'abord, c'est une série de cartes.
Oui, 64 cartes.
64 cartes, avec des cartes qui portent sur la géographie physique, c'est-à-dire la végétation, les déserts et les forêts, ensuite les ethnies, les langues, ensuite, encore, l'évolution à travers les siècles du territoire en termes d'occupation humaine et de climat aussi.
L'importance du climat, la cartographie du Sahara, parce que ni le Sahara ni la Grande Forêt n'ont toujours occupé les limites qui sont les leurs aujourd'hui, et une grande partie de l'histoire de l'Afrique est précisément conditionnée par l'existence du Sahara et par l'existence de cette forêt. Et j'ai voulu montrer L'évolution depuis 12 000 ans jusqu'à nos jours, l'évolution du Sahara, l'évolution de cette forêt, et comment ces deux milieux ont été soit des milieux obstacles, soit des milieux ouverts permettant l'épanouissement des hommes en société.
Alors, les cartes commencent, les descriptions commencent de 1 500 000 ans avant notre ère. À partir de moins 12 000, c'est-à-dire les dates, c'est 1 500 000, moins 12 000, moins 5 000, moins 1500 ans après, enfin moins 1500, et puis ensuite on rentre dans l'Afrique romaine. Alors, la première question que j'aurais posée, c'est, à votre avis, quelle est l'importance, l'effet de la géographie physique africaine? Est-ce qu'il y a un effet de la géographie physique africaine sur les situations qu'on connaît aujourd'hui?
Oui, il y a déjà un effet tout à fait déterminant dans l'histoire du peuplement de l'Afrique. Parce que le peuplement de l'Afrique, et je crois bien le montrer dans mes cartes, et c'est un des aspects, une des grandes originalités de cet atlas, c'est de montrer, c'est le grand problème des africanistes français, c'est qu'ils sont ou géographes, ou historiens, mais ils ne sont pas à la fois géographes et historiens. En d'autres termes, les historiens français de l'Afrique travaillent surtout sur des périodes contemporaines. Et ils n'ont pas ce recul, et ils n'ont pas eu cette révélation de l'importance du milieu comme ceux qui véritablement ont travaillé avec les géographes. Moi, ma chance, ça a été de travailler pendant plus de 10 ans sur le terrain avec des géographes, et je suis un historien géographe, ou un géographe historien. Alors donc, l'importance du milieu est considérable. Parce que les populations africaines au sud du Sahara ont été prises entre deux barrières. Entre la barrière du désert au nord et la barrière de la forêt au sud. Ce qui fait que pendant des milliers d'années, toute la vie humaine en Afrique, je parle de l'Afrique au sud du Sahara, je ne parle pas de l'Afrique du Nord bien sûr, s'est trouvée concentrée dans ce que l'on appelle la bande sahélienne. Grosso modo, entre le sud du Sahara actuel et le nord de la forêt. Toute cette bande sahélienne qui aujourd'hui est la bande qui est la plus frappée par la désertification, par la surpopulation, par les crises de production. Et pendant des milliers d'années, la population s'est trouvée concentrée et dans ce qu'on appelle le couloir sahélien et dans ce thé pastoral sahélien qui se prolonge vers l'Afrique australe par les hautes terres de l'Afrique orientale. Et tout s'est passé là-dedans. Tout s'est passé là-dedans, mais sans quasiment aucune influence extérieure. Parce que le Sahara coupait l'Afrique noire du monde méditerranéen, et l'ouverture ne s'est faite qu'à partir du moment où les musulmans se sont installés en Afrique du Nord, et à partir du moment où les pistes transsahariennes ont été ouvertes. Ce qui fait que, jusqu'au 8e siècle de notre ère, l'Afrique noire vit complètement à l'écart du monde, à l'exception de l'Éthiopie, mais c'est un milieu particulier dont nous parlerons peut-être tout à l'heure. Et ceci est expliqué par la géographie, c'est bien évident. Deuxième barrière, la barrière de la forêt. La grande forêt de la cuvette congolaise était bien plus étendue il y a 5000 ans qu'elle ne l'est aujourd'hui. Ce qui fait que, là encore, pendant des millénaires, la population n'est pas allée vers le sud. Et la population noire, les populations noires, ne sont allées au sud de cette forêt qu'à partir du moment où elles pourront s'engouffrer précisément dans cet axe de passage constitué par les hauteurs de la rift vallée qui va leur ouvrir le chemin vers l'Afrique centrale, orientale et australe. Ce sont les migrations des bantoufones, et ces migrations des bantoufones, nous les connaissons très bien, elles débutent aux alentours de l'ère chrétienne, et elles s'achèvent en 1775, quand la pointe extrême de la migration des bantoufones, constituée par les Kossa en Afrique du Sud, est bloquée par les Boers, qui eux montent du Cap, et le blocage se fait en 1775. Donc c'est un phénomène qui se conçoit dans la longue durée. Et le drame des études africaines, le drame de la sous-culture médiatique, et le drame de l'africanisme français, réside dans le fait que l'on a oublié la longue durée. Nous sommes la patrie de la longue durée, nous nous prétendons tous les héritiers des phénomènes brodéliens, mais dans le domaine africain, l'on ne parle pas de longue durée. Et pourquoi? Eh bien parce que, je l'ai déjà dit plusieurs fois sur cette antenne, mais je le répète, parce que les études d'histoire française sont bloquées par une épouvantable camisole. Par une camisole qui est celle des quatre périodes. Vous savez, en France, quand vous faites de l'histoire, vous êtes un spécialiste de l'histoire ancienne, ou de l'histoire médiévale, ou de l'histoire moderne, ou de l'histoire contemporaine. Et l'on a plaqué en Afrique ces divisions totalement européocentristes. Or, ces quatre divisions, qui sont légitimes dans l'histoire européenne, n'ont rien à voir avec l'histoire africaine. Parce que la fin de l'Antiquité s'explique par la fin de l'Empire romain et les grandes invasions, phénomène qui n'a pas existé en Afrique noire. La fin du Moyen-Âge et le début des temps modernes s'expliquent par la rupture de la Renaissance, phénomène qui n'a pas existé en Afrique noire. Le passage de l'époque moderne à l'époque contemporaine s'explique par la fin de l'Ancien Régime et la révolution industrielle philosophique qui va mener au triomphe de l'individualisme, phénomène qui n'a pas existé en Afrique noire. Ce qui fait que les historiens français de l'Afrique sont des gens totalement paraplégiques. Et c'est pour cela que 95% des historiens français de l'Afrique travaillent sur la période contemporaine. Parce que ils vont travailler sur la grève des postiers à Bobo-Dioulasso en 1922, ou sur le déchargement du port de Dakar en 1934, ou sur la condition de la femme indigène au Sénégal sous la colonisation, mais ils ne vont pas travailler sur les grands principes, sur les grands phénomènes de mise en place des populations. Ça, les anglo-saxons le font. Les anglo-saxons le font parce que eux travaillent dans la longue durée. Mais les anglo-saxons ont un handicap. C'est qu'ils n'ont pas le doctorat d'État, la thèse de doctorat d'État, qui est cet événement, ce grand œuvre de tout universitaire français, qui n'existe plus maintenant, parce que les socialistes, par souci d'égalitarisme, ont mis tout le monde au même niveau, on a supprimé le doctorat d'État pour n'avoir que des petits doctorats que tout le monde a une chance de réussir.
Ce qui permet de camoufler que certains grands caciques ne l'ont pas.
Ah oui, par exemple, ne disons pas de nom. Disons pas de nom,
mais
enfin...
On ne va pas citer de nom, mais...
Non, on ne citera pas de nom. Ou alors l'ont sur dossier. Ils l'ont sur dossier, ils n'ont pas soutenu de doctorat d'État, mais ils l'ont sur dossier, on les récompense en fin de carrière pour services syndicaux rendus. Et ces gens ensuite font la police dans l'université française, notamment au CNU, et des gens de droite les défendent, si vous voyez ce que je veux dire.
Ah, très,
je ne citerai pas de nom.
Non, bon. Non.
Enfin, des gens de droite, des gens prétendument de droite les défendent. Alors, fin de la parenthèse. Donc ce qui fait que le problème de l'africanisme français est un problème qui se situe sur cette négation ou cette ignorance de la longue durée. Or, tous les phénomènes de l'Afrique sont des phénomènes qui ne se comprennent que dans la longue durée. Car l'Afrique est le continent des permanences. C'est avant tout le continent de ces déterminismes ou de ces réalités qui se projettent et qui survivent à travers les siècles. Prenons un exemple. La colonisation de l'Afrique n'a été qu'une très brève parenthèse. Une parenthèse qui a duré quelques dizaines d'années. L'Afrique au sud du Sahara n'est véritablement occupée par les Européens qu'en 1900, en 1910. À la veille de 14, il y a encore des zones qui ne sont pas vraiment contrôlées. Mais disons qu'à la veille de 14, l'Afrique est à peu près contrôlée par les Européens. Et la décolonisation a lieu quand? Dans les années 1960. Au maximum, 60 ans de colonisation. La colonisation disparaît. Sur la lancée de la colonisation, certains acquis demeurent. Mais aujourd'hui, l'Afrique est véritablement retournée à sa situation précoloniale. Et alors, cette situation précoloniale, on la retrouve d'une manière très simple. Si vous comparez, par exemple, les récits de Stanley, Livingstone, Speke, Burton, tous les grands explorateurs de l'Afrique durant la fin du XIXe siècle, et si vous notez les points de rupture qu'ils avaient mis en évidence, et si vous mettez aujourd'hui sur une carte ces points de rupture, vous constatez que ce sont les mêmes zones qui sont en phase d'implosion, d'explosion, de massacre ou d'affrontement. Les mêmes.
Alors justement, ça me ramène à la question que j'allais vous poser. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a aussi une des raisons pour lesquelles les universitaires français, les africanistes français sont paralysés en face de la réalité africaine, c'est l'espèce de refus religieux qu'ils opposent à toute considération fondée sur des questions, employons le mot, des questions raciales. Car il y a une chose qui apparaît dans votre atlas d'une façon visible, c'est que, contrairement à ce qu'un vain peuple pense, l'Afrique n'est pas peuplée de nègres. c'est un raccourci un petit peu rapide, mais il y a beaucoup de groupes ethniques, de groupes linguistiques qui s'opposent, qui se mélangent, qui s'affrontent, et dont les affrontements ancestraux, ataviques, explique peut-être les situations d'aujourd'hui. Si on ne veut pas prendre en compte ces antagonismes tribaux, racistes ou ethniques, on ne peut pas comprendre la situation de l'Afrique d'aujourd'hui.
Bien sûr, parce que vous avez à la fois des oppositions ethniques, c'est-à-dire au sein des mêmes, disons, pour simplifier, au sein des mêmes races, des oppositions ethniques, mais vous avez également des oppositions raciales. Quand les Touaregs se battent contre les Noirs dans la région du Mali ou du Niger, c'est une opposition raciale. Quand les Tutsis et les Hutus se battent au Rwanda et au Burundi, c'est une opposition raciale. Quand au Tchad, les Toubous se battent contre les populations du Sud, c'est une opposition raciale. Ailleurs, ce sont des oppositions ethniques. Et ailleurs encore, comme en Somalie, ce sont des oppositions claniques. Car en Somalie, tous appartiennent à la même ethnie, tous appartiennent à la même race, mais ils se battent entre clans. Alors l'Afrique, c'est le continent des diversités géographiques et des diversités humaines. Et le grand drame est que, je reviens toujours à cette notion de sous-culture journalistique, dans ce monde de la sous-culture, d'une certaine sous-culture journalistique, on a tendance à massifier. Massifier, peut-être pour simplifier. Et en massifiant, eh bien, on nous a présenté une Afrique qui serait une Afrique, sorte d'image d'Épinal, peuplée par les Noirs. Or, l'Afrique n'existe pas. Il faut parler des Afriques. Il y a une infinité d'Afriques géographiques, et sur cette infinité d'Afriques géographiques vivent une infinité d'ethnies. Environ 1500 grandes ethnies au sud du Sahara. Mais pourquoi devrions-nous nous étonner de ce qui existe en Afrique alors que ce phénomène existe partout dans le monde?
Alors justement, j'allais vous poser la question, parce que on emploie le mot ethnie maintenant d'une façon courante dans la conversation, mais en fait on finit par plus exactement savoir ce qu'on couvre.
Mais écoutez, pour simplifier, disons que au sud du Sahara, vous avez un certain nombre de grands groupes, linguistiques. Vous avez les groupes couchites. Vous avez les groupes tchadiques, vous avez les groupes nilo-sahariens, vous avez les groupes ouest-africains et vous avez les groupes khoïsans. Bon. Au sein de chacun de ces groupes, vous avez un certain nombre d'entités qui sont des entités culturelles, linguistiques. Et vous avez également des entités qui sont des entités qui se distinguent par d'autres caractéristiques, par des caractéristiques de variantes raciales, et ce sont des sous-races ou des races ou des distinctions que l'on peut placer dans cette échelle des distinctions.
Mais je suis obligé de vous demander de préciser que quand vous employez le terme sous-race, il n'y a aucune connotation péjorative.
Ah non, je parle dans la classification.
C'est une classification.
Oui, il y a les grandes races, et dans ces grandes races, vous avez des sous-classifications. Alors, les ethnies et les tribus, il y a un terme péjoratif, c'est la tribu. Plus personne ne parle de tribu. Or, c'est le terme qui convient. Et maintenant, de même qu'il n'y a plus d'aveugles, mais il y a des malvoyants, de même qu'il n'y a plus de sourds, mais il y a des malentendants, eh bien, il n'y a plus de tribus, il y a des ethnies. Alors on a mis ce terme ethnique à toutes les sauces. Mais disons bien que lorsque l'on parle d'ethnie, eh bien, l'on recouvre une réalité qui bien souvent se retrouve sous ce que l'on définissait il y a encore 20 ou 30 ans sous le nom de tribu. Mais ne parlons pas de tribu, puisque le terme est péjoratif. Tout ceci pour dire que l'Afrique et les Africains ne constituent pas un bloc homogène. Il n'y a pas une population africaine, il y a des populations africaines. Il y a les populations de l'Afrique du Nord, à grande base berbère, qui ont été plus ou moins pénétrées par les invasions arabes, essentiellement au XIIe, XIIIe, XIVe siècle. Et vous avez ensuite au sud du Sahara les grands groupes, qui sont les grands groupes linguistiques, qui à l'origine étaient des groupes raciaux, et qui aujourd'hui sont des groupes qui sont des groupes mélangés. Et au sein de ces groupes, eh bien, des oppositions. Prenons l'exemple du Zaïre. Le Zaïre, avec ses 250 ou 300 peuples, ethnies ou tribus, appelez-les comme vous voulez, qui se déchirent, qui sont prêts à se déchirer, qui ont été artificiellement rassemblés par le colonisateur belge, par le roi des Belges. Prenez l'exemple de l'Afrique du Sud, prenez l'exemple de l'Angola, prenez l'exemple de tous les pays d'Afrique. L'ethnisme est l'élément déterminant. Alors, nos bons intellectuels du CNRS et de nos universités ne peuvent pas nier la réalité ethnique. Ils ne peuvent pas la nier, car ce sont des gens qui connaissent l'Afrique tout de même. Alors ils ont entrepris d'attribuer l'origine des ethnies à la colonisation. Et c'est ainsi qu'un colloque a été tenu au CNRS il y a quelques années à Paris sur l'histoire des ethnies. Les ethnies ont une histoire. Et là on nous a appris que finalement, le phénomène ethnique était bien moins important dans l'Afrique d'avant la colonisation, et que les colonisateurs ont en fait fabriqué les ethnies. Et un exemple tout à fait caricatural a été donné à propos des Tutsis et des Hutus, du Rwanda et du Burundi, et l'un des auteurs d'une brillante communication a développé l'idée suivante. Avant la colonisation, ceux que l'on appelait les Tutsis, ce sont les géants pastoraux qui étaient à la tête de ces états d'Afrique orientale, Ceux que l'on appelait les Tutsis étaient les riches, et ceux que l'on appelait les Hutus, c'est-à-dire les agriculteurs de taille normale, ceux que l'on représente comme les Noirs dans la figure générale, dans l'image d'Épinal du Noir, étaient les pauvres. En fait, c'était une, voyez, dans le schéma marxiste complet, c'était un schéma économique. Or, les missionnaires et les administrateurs et les colonisateurs, avec leur regard faussé par la lumière d'Afrique, ont voulu voir dans ce qui n'était qu'une spécialisation économique, donc mouvante, une réalité physique, donc innée. Et c'est ainsi qu'ils ont figé, en bloquant une évolution économique et en la transformant en évolution, en réalité ethnique, ils ont créé l'ethnie. Résultat. Et c'est pour cela que votre fille est muette, c'est pour cela que les Tutsis et les Hutus se massacrent aujourd'hui au Rwanda et au Burundi.
Ce qui n'explique pas, c'est comment pourquoi les pauvres sont petits systématiquement et pourquoi les riches sont grands. C'est...
Voilà, alors tout simplement parce qu'il y a un refus, de prendre en compte cette réalité, car cette réalité va à l'encontre de tous leurs dogmes. Car le problème des africanistes français... C'est un problème qui est essentiellement français. Les Britanniques, les anglophones et les anglo-saxons ont une approche qui est beaucoup plus concrète et beaucoup plus réaliste de la réalité africaine. D'ailleurs, les grandes publications sur ces domaines de migration des populations se font dans le monde anglo-saxon ou bien en Belgique, mais ce sont des publications qui se font, qui dépendent des universités britanniques. Eh bien, ceci va à l'encontre de leur philosophie de base, de leur idée universelle, de leur idée universaliste. Il est bien évident que l'on ne peut pas partir de cette réalité ethnique, car si l'on partait de cette réalité ethnique, eh bien on aboutirait à la condamnation de tout ce qui a été à la base du tiers-mondisme et à la base de tout ce qui a permis à ces gens de prendre le pouvoir culturel depuis 40 ans dans notre beau pays de France. Ces gens qui tiennent l'université française, qui tiennent le ministère de la coopération, qui tiennent le ministère des Affaires étrangères, qui tiennent la presse, qui se trompent systématiquement, qui refusent de prendre en compte cette erreur, mais qui continuent à se coopter et à maintenir leur présence dans ces administrations et dans l'université. Et si vous dites ce que je dis, eh bien vous n'avez aucune chance de faire carrière dans l'université française. Vous serez bloqué dès le départ, et vous serez bloqué dès le départ en étant considéré comme l'affreux petit canard. Et c'est pour cela qu'il n'y a aucune chance de voir l'africanisme français connaître une réaction ou une renaissance, tout simplement parce que le recrutement ne se fait que dans la mesure où l'on est correct philosophiquement.
Il y a un autre aspect. Bon, on a vu que la réalité était niée en ce qui concerne la réalité géographique et physique.
Sauf les géographes. Parce que, alors là, j'ouvre une parenthèse, parmi les meilleurs travaux africanistes français, au monde, pardon, nous avons les travaux des géographes français, qui sont tout à fait admirables. C'est là où il y a un décalage considérable entre le domaine géographique et le domaine historique. Autant les géographes, notamment je pense à l'école de Bordeaux, également à Paris, sont des hommes de terrain, et même lorsqu'ils ont des idées opposées à celles qui peuvent être les miennes, par exemple, ce sont des gens qui ont l'esprit de terrain, ce sont des gens concrets. Il n'y a pas, si vous voulez, chez les géographes africanistes français, cet a priori idéologique qui existe chez les historiens, chez certains historiens.
Alors, ce qui est intéressant, parce qu'il ne faudrait pas croire que ce que vous dites là, ou ce qu'on dit là, c'est simplement destiné à régler des comptes.
Ah, pas du tout,
Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut bien comprendre, et je crois que vous avez insisté là-dessus, mais il faut le rappeler quand même, au fond, le citoyen lambda, le consommateur d'information, reçoit l'information par des journaux, par des télévisions, par des radios, et c'est une information qui est, sur l'Afrique, qui est frappée de nullité à cause de la culture africaine nulle des journalistes. Mais ces journalistes sont nuls parce qu'ils se tournent vers des sources qui elles-mêmes sont des sources polluées, des sources mensongères, des sources trompeuses. Et l'avantage de cet atlas, qui est un atlas commenté, qui présente des cartes, mais qui à chaque fois apporte le commentaire.
Oui, j'ai essayé en face des cartes de mettre un commentaire.
C'est clair, clair.
C'est très très clair. Et l'avantage, c'est que ça remet, comme on dit maintenant, les montres à l'heure. C'est-à-dire que beaucoup d'imbécilités qu'on entend ressasser couramment en ouvrant n'importe quelle chaîne de télévision, même s'il n'y a pas de volonté de nuire dans le propos du journaliste, eh bien, elle est corrigée par ça. Alors, on a vu que ces erreurs, cette mauvaise information, cette sous-culture, elle était liée à une méconnaissance des réalités historiques, de la réalité historique de l'Afrique, qui n'est pas comparable, qui n'est pas superposable à la réalité européenne. On a vu que c'était aussi, qu'elle était due également à un rejet des évidences du peuplement, peuplement par des races différentes, qui entraîne des antagonismes, des luttes, des combats, des affrontements, etc. Et aussi subordination de certains peuples à l'autre, aux autres,
oui,
d'où l'esclavage, etc.
Oui, et cette subordination, qui est une subordination qui a été complètement bouleversée par le rapport démographique et démocratique. Par exemple, l'on ne dit jamais qu'une des grandes causes de la déstabilisation actuelle de l'Afrique, c'est que le nouveau rapport démographique qui a été imposé à la suite des campagnes médicales faites pendant la colonisation, ont fait que les anciens peuples dominants se sont trouvés démographiquement dépassés par ceux qu'ils dominaient auparavant. Ce qui n'était pas grave, tant que l'on n'était pas dans un cadre démocratique. Mais à partir du moment où l'avenir de l'Afrique et l'obligation, j'allais dire le diktat démocratique est imposé à l'Afrique, ça devient dramatique. Car les ethnies, qui étaient les ethnies dominantes, deviennent des ethnies totalement dominées par le simple jeu du suffrage universel. Et c'est une logique qui est totalement étrangère à la mentalité africaine. C'est exactement ce qui va se passer en Afrique du Sud avec les Zoulous et les Kossa. C'est exactement ce qui se passe entre les Touaregs et les populations noires du Niger ou du Mali. C'est exactement ce qui se passe avec les Tutsis et les Hutus. Pourquoi des événements au Burundi? On s'est massacré encore à Bujumbura avant-hier. Pourquoi? Eh bien parce que les 20% de Tutsis, qui ont toujours été 20%, et qui ont constitué le royaume du Rwanda et du Burundi, sont obligés aujourd'hui par la démocratie de laisser le pouvoir aux plus nombreux, puisque la démocratie c'est l'addition des voix. Nous nous trouvons donc avec 80% de Hutus qui l'emportent automatiquement aux élections sur les 20% de Tutsis, car en Afrique il n'y a pas de parti politique, il n'y a que des représentations politiques de réalités ethniques. Ce qui fait que lorsque l'Occident, avec sa bonne conscience, impose la démocratie en Afrique, et bien l'Occident provoque les guerres civiles.
Alors, il y a un troisième aspect de la sous-culture, de la méconnaissance, du rejet de la réalité, c'est l'attitude de la presse en France, du réseau d'information ou de désinformation, face à une question qui est quand même primordiale dans le développement des continents, des pays et des populations, la question du développement technologique. Alors,
tous les grands explorateurs de l'Afrique durant la fin du XIXe siècle, et si vous notez les points de rupture qu'ils avaient mis en évidence, et si vous mettez aujourd'hui sur une carte ces points de rupture, vous constatez que ce sont les mêmes zones qui sont en phase d'implosion, d'explosion, de massacre ou d'affrontement. Les mêmes.
Alors justement, ça me ramène à la question que j'allais vous poser. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a aussi une des raisons pour lesquelles les universitaires français, les africanistes français sont paralysés en face de la réalité africaine, c'est l'espèce de refus religieux qu'ils opposent à toute considération fondée sur des questions, employons le mot, des questions raciales. Car il y a une chose qui apparaît dans votre atlas d'une façon visible, c'est que, contrairement à ce qu'un vain peuple pense, l'Afrique n'est pas peuplée de nègres. c'est un raccourci un petit peu rapide, mais il y a beaucoup de groupes ethniques, de groupes linguistiques qui s'opposent, qui se mélangent, qui s'affrontent, et dont les affrontements ancestraux, ataviques, expliquent peut-être les situations d'aujourd'hui. Si on ne veut pas prendre en compte ces antagonismes tribaux, racistes ou ethniques, on ne peut pas comprendre la situation de l'Afrique d'aujourd'hui.
Bien sûr, parce que vous avez à la fois des oppositions ethniques, c'est-à-dire au sein des mêmes, disons, pour simplifier, au sein des mêmes races, des oppositions ethniques, mais vous avez également des oppositions raciales. Quand les Touaregs se battent contre les Noirs dans la région du Mali ou du Niger, c'est une opposition raciale. Quand les Tutsis et les Hutus se battent au Rwanda et au Burundi, c'est une opposition raciale. Quand au Tchad, les Toubous se battent contre les populations du Sud, c'est une opposition raciale. Ailleurs, ce sont des oppositions ethniques.
Et ailleurs encore, comme en Somalie, ce sont des oppositions claniques. Car en Somalie, tous appartiennent à la même ethnie, tous appartiennent à la même race, mais ils se battent entre clans. Alors l'Afrique, c'est le continent des diversités géographiques et des diversités humaines. Et le grand drame est que, je reviens toujours à cette notion de sous-culture journalistique, dans ce monde de la sous-culture, d'une certaine sous-culture journalistique, on a tendance à massifier. Massifier, peut-être pour simplifier. Et en massifiant, eh bien, on nous a présenté une Afrique qui serait une Afrique, sorte d'image d'Épinal, peuplée par les Noirs. Or, l'Afrique n'existe pas. Il faut parler des Afriques. Il y a une infinité d'Afriques géographiques, et sur cette infinité d'Afriques géographiques vivent une infinité d'ethnies, environ 1500 grandes ethnies au sud du Sahara. Mais pourquoi devrions-nous nous étonner de ce qui existe en Afrique, alors que ce phénomène existe partout dans le monde?
Alors justement, j'allais vous poser la question, parce qu'on emploie le mot ethnie maintenant d'une façon courante dans la conversation, mais en fait, on finit par plus exactement savoir ce que ça recouvre.
Mais écoutez, pour simplifier, disons que au sud du Sahara, vous avez un certain nombre de grands groupes linguistiques. Vous avez les groupes couchites, vous avez les groupes tchadiques, vous avez les groupes nilo-sahariens, vous avez les groupes ouest-africains et vous avez les groupes cohissants. Bon. Au sein de chacun de ces groupes, vous avez un certain nombre d'entités qui sont des entités culturelles, linguistiques. Et vous avez également des entités qui sont des entités qui se distinguent par d'autres caractéristiques, par les caractéristiques de variantes raciales, et ce sont des sous-races ou des races ou des distinctions que l'on peut placer dans cette échelle des distinctions.
Mais je suis obligé de vous demander de préciser que quand vous employez le terme sous-race, il n'y a aucune connotation péjorative.
Ah non, je parle dans la classification.
C'est une classification.
Oui, il y a les grandes races, et dans ces grandes races, vous avez des sous-classifications. Alors, les ethnies et les tribus, il y a un terme péjoratif, c'est la tribu. Plus personne ne parle de tribu. Or, c'est le terme qui convient. Et maintenant, de même qu'il n'y a plus d'aveugles, mais il y a des malvoyants, de même qu'il n'y a plus de sourds, mais il y a des malentendants, bien, il n'y a plus de tribus, il y a des ethnies. Alors on a mis ce terme ethnique à toutes les sauces. Mais disons bien que lorsque l'on parle d'ethnie, eh bien, l'on recouvre une réalité qui bien souvent se retrouve sous ce que l'on définissait il y a encore 20 ou 30 ans sous le nom de tribu. Mais ne parlons pas de tribu, puisque le terme est péjoratif. Tout ceci pour dire que l'Afrique et les Africains ne constituent pas un bloc homogène. Il n'y a pas une population africaine, il y a des populations africaines. Il y a les populations de l'Afrique du Nord, à grande base berbère, qui ont été plus ou moins pénétrées par les invasions arabes, essentiellement au XIIe, XIIIe, XIVe siècle. Et vous avez ensuite au sud du Sahara les grands groupes, qui sont les grands groupes linguistiques, qui à l'origine étaient des groupes raciaux, et qui aujourd'hui sont des groupes qui sont des groupes mélangés. Et au sein de ces groupes, eh bien, des oppositions. Prenons l'exemple du Zaïre. Le Zaïre, avec ses 250 ou 300 peuples, ethnies ou tribus, appelez-les comme vous voulez, qui se déchirent, qui sont prêts à se déchirer, qui ont été artificiellement rassemblés par le colonisateur belge, par le roi des Belges. Prenez l'exemple de l'Afrique du Sud, prenez l'exemple de l'Angola, prenez l'exemple de tous les pays d'Afrique. L'ethnisme est l'élément déterminant. Alors, nos bons intellectuels du CNRS et de nos universités ne peuvent pas nier la réalité ethnique. Ils ne peuvent pas la nier, car ce sont des gens qui connaissent l'Afrique tout de même. Alors ils ont entrepris d'attribuer l'origine des ethnies à la colonisation. Et c'est ainsi qu'un colloque a été tenu au CNRS il y a quelques années à Paris sur l'histoire des ethnies. Les ethnies ont une histoire. Et là on nous a appris que finalement le phénomène ethnique était bien moins important dans l'Afrique d'avant la colonisation et que les colonisateurs ont en fait fabriqué les ethnies. Et un exemple tout à fait caricatural a été donné à propos des Tutsis et des Hutus, du Rwanda et du Burundi, et l'un des auteurs d'une brillante communication a développé l'idée suivante. Avant la colonisation, ceux que l'on appelait les Tutsis, ce sont les géants pastoraux qui étaient à la tête de ces états d'Afrique orientale. Ceux que l'on appelait les Tutsis étaient les riches, et ceux que l'on appelait les Hutus, c'est-à-dire les agriculteurs de taille normale, ceux que l'on représente comme les Noirs dans la figure générale, dans l'image d'Épinal du Noir, étaient les pauvres. En fait, c'était une, voyons, dans le schéma marxiste complet, c'était un schéma économique. Or, les missionnaires et les administrateurs et les colonisateurs, avec leur regard faussé par la lumière d'Afrique, ont voulu voir dans ce qui n'était qu'une spécialisation économique, donc mouvante, une réalité physique, donc innée. Et c'est ainsi qu'ils ont figé, en bloquant une évolution économique et en la transformant en évolution, en réalité ethnique, ils ont créé l'ethnie. Résultat, Et c'est pour cela que votre fille est muette, c'est pour cela que les Tutsis et les Hutus se massacrent aujourd'hui au Rwanda et au Burundi.
Ce qui n'explique pas, c'est comment pourquoi les pauvres sont petits systématiquement et pourquoi les riches sont grands. C'est...
Voilà, alors tout simplement parce qu'il y a un refus, de prendre en compte cette réalité, car cette réalité va à l'encontre de tous leurs dogmes. Car le problème des africanistes français, c'est un problème qui est essentiellement français. Les Britanniques, les anglophones et les anglo-saxons ont une approche qui est beaucoup plus concrète et beaucoup plus réaliste de la réalité africaine. D'ailleurs, les grandes publications sur ce domaine des migrations des populations se font dans le monde anglo-saxon ou bien en Belgique, mais ce sont des publications qui se font, qui dépendent des universités britanniques. Eh bien, ceci va à l'encontre de leur philosophie de base, de leur idée universelle, de leur idée universaliste. Il est bien évident que l'on ne peut pas partir de cette réalité ethnique, car si l'on partait de cette réalité ethnique, eh bien on aboutirait à la condamnation de tout ce qui a été à la base du tiers-mondisme et à la base de tout ce qui a permis à ces gens de prendre le pouvoir culturel depuis 40 ans dans notre beau pays de France. Ces gens qui tiennent l'université française, qui tiennent le ministère de la coopération, qui tiennent le ministère des Affaires étrangères, qui tiennent la presse, qui se trompent systématiquement, qui refusent de prendre en compte cette erreur, mais qui continuent à se coopter et à maintenir leur présence dans ces administrations et dans l'université. Et si vous dites ce que je dis, eh bien vous n'avez aucune chance de faire carrière dans l'université française. Vous serez bloqué dès le départ, et vous serez bloqué dès le départ en étant considéré comme l'affreux petit canard. Et c'est pour cela qu'il n'y a aucune chance de voir l'africanisme français connaître une réaction ou une renaissance, tout simplement parce que le recrutement ne se fait que dans la mesure où l'on est correct philosophiquement.
Il y a un autre aspect. Bon, on a vu que la réalité était niée en ce qui concerne la réalité géographique et physique.
Sauf les géographes. Alors là, j'ouvre une parenthèse. Parmi les meilleurs travaux africanistes français, au monde, pardon, nous avons les travaux des géographes français, qui sont tout à fait admirables. C'est là où il y a un décalage considérable entre le domaine géographique et le domaine historique. Autant les géographes, notamment je pense à l'école de Bordeaux, également à Paris, sont des hommes de terrain. Et même lorsqu'ils ont des idées opposées à celles qui peuvent être les miennes, par exemple, ce sont des gens qui ont l'esprit de terrain, ce sont des gens concrets. Il n'y a pas, si vous voulez, chez les géographes africanistes français, cet a priori idéologique qui existe chez les historiens, chez certains historiens.
Alors, ce qui est intéressant, parce que il faudrait pas croire que ce que vous dites là ou ce qu'on dit là, c'est simplement destiné à régler des comptes.
Ah, pas du tout. Pas du tout.
Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut bien comprendre, et je crois que vous avez insisté là-dessus, mais il faut le rappeler quand même. Au fond, le citoyen lambda, le consommateur d'information, reçoit l'information par des journaux, par des télévisions, par des radios, et c'est une information qui est, sur l'Afrique, qui est frappée de nullité à cause de la culture africaine nulle des journalistes. Mais ces journalistes sont nuls parce qu'ils se tournent vers des sources qui elles-mêmes sont des sources polluées, des sources mensongères, des sources trompeuses. Et l'avantage de cet atlas, qui est un atlas commenté, qui présente des cartes, mais qui à chaque fois apporte le commentaire.
Oui, j'ai essayé en face des cartes de mettre un commentaire.
C'est clair, clair.
C'est très très clair. Et l'avantage, c'est que ça remet, comme on dit maintenant, les montres à l'heure. C'est-à-dire que beaucoup d'imbécilités qu'on entend ressasser couramment en ouvrant n'importe quelle chaîne de télévision, même s'il n'y a pas de volonté de nuire dans le propos du journaliste, eh bien, elle est corrigée par ça. Alors, on a vu que ces erreurs, cette mauvaise information, cette sous-culture, elle était liée à une méconnaissance des réalités historiques, de la réalité historique de l'Afrique, qui n'est pas comparable, qui n'est pas superposable à la réalité européenne. On a vu que c'était aussi, qu'elle était due également à un rejet des évidences du peuplement, peuplement par des races différentes, qui entraînent des antagonismes, des luttes, des combats, des affrontements, etc. Et aussi subordination de certains peuples à l'autre, aux autres,
oui,
d'où l'esclavage, etc.
Oui, et cette subordination, qui est une subordination qui a été complètement bouleversée par le rapport démographique et démocratique. Par exemple, l'on ne dit jamais qu'une des grandes causes de la déstabilisation actuelle de l'Afrique, c'est que le nouveau rapport démographique qui a été imposé à la suite des campagnes médicales faites pendant la colonisation, ont fait que les anciens peuples dominants se sont trouvés démographiquement dépassés par ceux qu'ils dominaient auparavant. Ce qui n'était pas grave, tant que l'on n'était pas dans un cadre démocratique. Mais à partir du moment où l'avenir de l'Afrique et l'obligation, j'allais dire le diktat démocratique est imposé à l'Afrique, ça devient dramatique. Car les ethnies, qui étaient les ethnies dominantes, deviennent des ethnies totalement dominées par le simple jeu du suffrage universel. Et c'est une logique qui est totalement étrangère à la mentalité africaine. C'est exactement ce qui va se passer en Afrique du Sud avec les Zoulous et les Kossa. C'est exactement ce qui se passe entre les Touaregs et les populations noires du Niger ou du Mali. C'est exactement ce qui se passe avec les Tutsis et les Hutus. Pourquoi des événements au Burundi? On s'est massacré encore à Bujumbura avant-hier. Pourquoi? Eh bien parce que les 20% de Tutsis, qui ont toujours été 20%, et qui ont constitué le royaume du Rwanda et du Burundi, sont obligés aujourd'hui par la démocratie de laisser le pouvoir aux plus nombreux, puisque la démocratie, c'est l'addition des voix. Nous nous trouvons donc avec 80% de Hutus qui l'emportent automatiquement aux élections sur les 20% de Tutsis, car en Afrique, il n'y a pas de parti politique. Il n'y a que des représentations politiques de réalités ethniques. Ce qui fait que lorsque l'Occident, avec sa bonne conscience, impose la démocratie en Afrique, l'Occident provoque les guerres civiles.
Alors, il y a un troisième aspect de la sous-culture, de la méconnaissance, du rejet de la réalité, c'est l'attitude de la presse en France, du réseau d'information ou de désinformation, face à une question qui est quand même primordiale dans le développement des continents, des pays et des populations, la question du développement technologique. Alors, il y a un chapitre dans votre atlas de l'Afrique réelle qui est intitulé « Une technologie importée » et ça, c'est une des thèses que vous défendez depuis longtemps et que vous défendez en apportant beaucoup d'éléments probants. C'est que le développement technologique de l'Afrique est extraordinairement en retard par rapport au développement technologique de l'Europe et qu'en fait, c'est un développement technologique qui procède de l'importation des techniques et pas du tout de la création des techniques. Alors, on le voit là d'une façon frappante sur une des cartes qui concerne la moitié sud de l'Afrique, enfin la moitié sud à partir du
centre sud.
Le centre et le sud, disons le sud du Sahara plus exactement, où vous indiquez les différentes zones d'apparition, les différentes dates d'apparition du fer.
La métallurgie du fer.
La métallurgie du fer.
Au sud de la Grande Forêt. Voilà. Disons, du Cameroun au Kenya et vers le sud.
Et alors, c'est tout à fait étonnant parce que on voit que dans les pays les plus avancés, si on peut dire, dans les régions les plus avancées, c'est-à-dire autour du lac Victoria, l'apparition, l'âge du fer, c'est de 300 à 0 avant Jésus-Christ.
Oui.
Dès qu'on s'éloigne un petit peu du lac Victoria, quand on arrive par exemple dans la région
du Zimbabwe,
et là on arrive à 500, à 1100.
Oui, le phénomène, ce que montre ma carte, c'est que cette métallurgie du fer a été importée depuis le nord, depuis où on ne sait pas exactement, et que plus on va vers le sud, et plus elle est récente. En d'autres termes, il y a eu donc une importation du nord vers le sud et une progression qui s'est faite entre 300 avant Jésus-Christ et 1100 après Jésus-Christ. Ce qui nous montre bien, premièrement, le phénomène primo d'importation extérieure de cette métallurgie et deuxièmement, de conquête de ces espaces par des populations qui n'en étaient pas originaires. Et c'est à ce moment-là que les Noirs commencent véritablement à s'installer dans cette Afrique centrale et orientale.
Mais ça représente un retard de combien de siècles par rapport à l'âge de fer en Europe ?
Oh, disons, il est difficile de le dire avec certitude parce que nous avons des zones de l'Afrique qui sont des zones de très ancienne métallurgie. Par exemple, le Sahara est probablement un lieu de néolithisation qui est au moins aussi ancien que le Moyen-Orient. Le Sahara est probablement une zone de domestication des animaux qui est maintenant à peu près certainement aussi ancienne que la région de Zagros en Iran, qui était celle qui était la plus connue, la plus anciennement connue jusqu'à aujourd'hui. Et nous avons également, dans la région de Nok, c'est-à-dire au sud-ouest du lac Tchad, de la très ancienne métallurgie. Donc, je pense qu'il ne faut pas comparer l'Afrique en mettant un arbre de découverte par rapport à ce qui a pu se faire ailleurs. Parce que l'ère mésoaméricaine d'Amérique centrale a découvert l'agriculture d'une grande partie de ce qui se constitue notre alimentation aujourd'hui 500 ans avant la découverte, espagnole, la Chine de son côté. Mais ce qui est intéressant, c'est de dire qu'aucune, des grandes inventions qui ont permis le développement, le progrès de l'humanité n'est sorti de l'Afrique au sud du Sahara. Aucune. Et l'Afrique au sud du Sahara apparaît comme étant essentiellement réceptrice et non pas comme étant conceptrice. Et là, c'est un phénomène qui est un phénomène qui pose une question et qui est tout à fait intéressant pour les ethno-historiens de l'Afrique.
Alors, une des théories qui est avancée aujourd'hui avec beaucoup de bruit, en tout cas, par notamment les Afro-Américains, c'est la théorie politiquement correcte du peuplement négroïde de l'Égypte.
Ah oui.
Quel commentaire ça vous inspire ?
Ah, mais personne ne la prend au sérieux. Personne, même les historiens les plus marxistes ne prennent cette idée au sérieux. C'est une idée qui n'est prise au sérieux que dans certains journaux, dans certains brûlots. Non. En fait, quelle est cette idée ? C'est une idée qui a été inventée par Cheikh Anta Diop. C'est une idée.
Qui est un Sénégalais.
Oui. Cheikh Anta Diop disait qu'en fait, l'égyptologie était un complot contre la race noire. Un complot contre la race noire parce que les égyptologues avaient systématiquement détruit les momies noires pour ne laisser apparaître que les momies blanches. Et Cheikh Anta Diop disait que le creuset égyptien était un creuset africain et que tout ce qui était égyptien était d'abord africain. Donc toute la civilisation de l'Antiquité est africaine puisque, disait Anta Diop, la Grèce ancienne procède de l'Égypte, Rome procède de la Grèce, et bon, c'est l'évolution en tiroir. Bon, c'est une farce. C'est une farce, parce qu'on sait très bien que dans l'histoire de l'Égypte pharaonique, nous avons affaire à des peuples qui ne sont pas des peuples noirs. Mais nous savons en revanche qu'il y a eu deux dynasties noires. Il y a eu deux dynasties noires qui étaient des dynasties nubiennes dans la fin de la période pharaonique, mais ça, aucun égyptologue ne l'a jamais nié. Il suffit tout simplement de voir comment les Égyptiens se représentaient sur les bas-reliefs et comment ils représentaient les Noirs pour bien montrer que cette différence était tout à fait réelle. Quant à l'étude raciale qui est faite par Cheikh Anta Diop et par ce courant afro-américain, eh bien, c'est une étude qui repose sur un rapprochement de toponymes. C'est à peu près comme si l'on disait, puisqu'il existe un lac qui s'appelle le lac Casbah au Canada, c'est comme si l'on disait, à ce moment-là, que l'émir Abdelkader avait une résidence quelque part du côté, à l'ouest des chutes du Niagara. Bon, scientifiquement, ça ne tient pas. Ça ne peut intéresser que des esprits superficiels, mais aucun scientifique n'admettra cette idée de l'afrocentrisme.
Alors, si vous permettez, on va écouter un tout petit bout de musique. Ensuite, on va donner la parole aux auditeurs, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'appels. Alors, il s'agit, ce que vous venez d'entendre, c'est un extrait d'un disque que vient de publier l'ensemble Jubilaté de Versailles. C'est bien ça, Patrick, hein ? Je ne dis pas de bêtises. Et cet ensemble donnera, le 23 mars 1994 à 20h45, un concert en l'église Saint-Symphorien de Versailles, place Saint-Symphorien, et le vendredi 25 mars 1994 à 20h45, un concert en l'église de la Sainte Trinité de Paris, 3 rue de la Trinité Paris 9e, au programme le grand motet versaillais, Des Profondis de Michel Richard de Lalande, le Miserere des Jésuites, psaume 50 à 6 voix, de Marc-Antoine Charpentier. Le prix des places est de 100 et 130 francs. Et pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser au 39 51 95 53. Nous redonnons ces informations par la suite. Alors, je donne la parole à tous les auditeurs, à commencer par celui-ci qui dit « Mais comment M. Ferré, qui est un homme intelligent, peut-il accepter sur cette radio tous les mercredis un tel crétin ?» C'est justement parce qu'il est intelligent qu'il accepte un crétin. Et je vous dirais, le crétin accepte bien l'homme intelligent tous les lundis. Donc finalement, nous nous supportons au sens français, au sens anglais du terme, vous voyez. Nous faisons ensemble la même radio, pas le même genre d'émission. Il y a des émissions de crétins et des émissions de monsieur intelligent, c'est tout. Alors, vous savez que le mercredi, c'est un crétin, donc évidemment, c'est pas digne de vous, monsieur. Je me demande vraiment ce que vous faites devant votre poste.
Tout de même,
il y a tellement de bons livres à lire plutôt que d'écouter un crétin.
Il y a une auditrice qui dit ici, si Jean Ferré vire Serge de Beketch, je ne cotiserai plus.
Mais je ne sais pas pourquoi il dit. Qu'est-ce que c'est que ce nouveau fantasme?
Et puis, bon, alors, un autre dit, on ne touche pas à Serge de Beketch.
Bon, non, mais voilà, bon, restons-en là. C'est simplement, je veux dire, monsieur, si je suis un crétin, ce qui est tout à fait vraisemblable, c'est d'ailleurs mon opinion et je la partage. Ça fait quand même maintenant 6 ans que ça dure, le crétin sur le mercredi soir. Vous pouvez quand même supporter qu'un crétin ait la parole de 18h à 21h, une fois par semaine, sur une des 54 radios du paysage audiovisuel français. C'est le seul crétin. Les autres, Arthur par exemple, sur Europe numéro 1, il prétend pas du tout être un crétin, il emploie un autre mot lui. Et personne ne demande qu'il soit viré ni...
Mais un auditeur souhaite qu'il soit viré démocratiquement.
Oui, c'est ça.
On va voter.
Oui. Ça confirme absolument ce que je pense de la démocratie. Donc, pour le reste, alors maintenant revenons aux choses sérieuses et intéressantes. Revenons à l'Afrique. Alors, un auditeur nous dit, félicitations à Bernard Lugan pour son atlas, j'ai enfin compris l'Afrique. Ça, c'est quand même extraordinaire, parce
c'est un beau compliment.
Avec un livre qui comprend 63 cartes et
30 pages de
commentaires. Une centaine de pages, oui. et 30 pages de commentaires, d'arriver à faire comprendre, je veux dire que je suis un peu dans le cas de ce monsieur, maintenant quand je regarde, j'ai l'impression d'être devenu un crétin qui connaît bien l'Afrique. Donc, c'est tout à fait vrai, et c'est la raison pour laquelle je vous ai demandé, professeur, de venir en parler ce soir. Alors, un étudiant en histoire à Tolbiac nous dit, dès les premiers cours, on nous inculque que les ethnies n'existent pas et que les tribus n'existent pas.
Ouais, voilà.
C'est-à-dire qu'on apprend à des étudiants, c'est ce que vous nous disiez, voilà, le contraire radical de la simple réalité.
Et alors, le plus grave, c'est que cette année, au concours d'agrégation, la question d'histoire contemporaine est l'Afrique 1900-1960. Alors, comment voulez-vous que quelqu'un puisse faire un devoir sans parler des ethnies? Ben, s'il parle des ethnies, il va se faire massacrer. Et s'il ne parle pas des ethnies, on va lui dire, mais quand même, il n'a rien compris.
Oui, cela dit, il peut très bien faire son devoir en disant, il est entendu que les ethnies et les tribus n'existent pas. Nonobstant, les Africains n'ayant pas été informés de la chose d'une façon récente. Alors, maintenant, pour en rester dans le domaine universitaire et para-universitaire, un auditeur vous demande ce que vous pensez, professeur Lugan, de l'ouvrage du géographe Pierre Gourou, L'Afrique tropicale, nain ou géant agricole.
Ah oui, Pierre Gourou qui a écrit ce superbe ouvrage qui s'appelait Terre de bonne espérance, le monde tropical, Terre de bonne espérance. Oui, bien, l'Afrique est exactement à la croisée des chemins, parce que l'Afrique a tout pour réussir. L'Afrique a tout pour réussir au point de vue agricole. Les terres parmi les plus riches du monde. Prenez par exemple les hautes terres du Cameroun. Prenez par exemple les hautes terres de l'Ouganda, du Kenya, de l'Est du Zaïre, du Rwanda, du Burundi, du Nord de l'Afrique du Sud. On fait 2 récoltes, peut-être même parfois 3 récoltes par an. Ce qui se passe en Afrique, c'est un problème qui est un problème humain. Dans ces régions où tout pousse, qui sont bénies des dieux, un véritable climat de serre tropicale en permanence, eh bien, ce qui se passe, c'est que nous avons une surpopulation qui est telle que
la stérilisation du sol est en train de se produire, et en plus de cela, les populations s'opposent. Donc il y a, si vous le voulez, des possibilités, et l'Afrique est prise entre deux milieux. Les milieux hostiles, dans lesquels peu d'avenir peut être envisagé, et des milieux hyper favorisés, dans lesquels l'homme est en train de détruire la possibilité même d'existence. C'est le drame de cette Afrique.
On a vu récemment d'ailleurs un reportage, je ne sais plus sur quelle chaîne, qui avait quelque chose d'effrayant, de bouleversant. On voyait des Français, des ingénieurs français de l'Institut agronome, qui étaient en train d'étudier des techniques de re-ensemencement et de replantation de la forêt africaine.
Oui.
Parce qu'elle a été tellement ravagée par les populations locales qui en tirent du bois.
Du charbon de bois. 90% du bois coupé en Afrique est utilisé pour faire cuire les aliments. Car il faut bien voir une chose, c'est qu'en Afrique, la population a doublé depuis 20 ans. Et cette population, pour faire cuire sa nourriture quotidienne, utilise à 95% du charbon de bois. Et ce charbon de bois, d'où vient-il? Eh bien, il vient des zones qui sont un peu couvertes de bois dans les périphéries des grandes villes, et maintenant de plus en plus vers les zones forestières.
D'ailleurs, quand on va en Afrique, le premier parfum qu'on sent...
C'est le feu de bois.
C'est le feu de bois, le parfum du charbon de bois.
L'Afrique est en train d'être... La forêt, le bois africain est en train d'être mangé pour cuire la nourriture. Mais c'est absolument dramatique ce qui se passe. Et l'on voit des phénomènes qui se développent autour de ces grandes villes artificielles. Il n'y a pas de tradition urbaine dans l'Afrique au sud du Sahara, sauf les villes du Sahel qui étaient sous influence musulmane. Et ces villes sont des villes dans lesquelles vivent des non-producteurs consommateurs, et ces non-producteurs consommateurs contribuent à la stérilisation végétale tout autour de ces grandes villes, parce qu'il faut quand même que ces gens se nourrissent. Et c'est un problème qui n'est pas assez envisagé. Je crois qu'un auditeur posait une question, n'a pas dû comprendre ce que je disais tout à l'heure,
j'ai posé une question sur
l'eau dans le Sahara.
Il dit, je conteste ce que dit le professeur Lugan, il y a 12 000 ans, il y avait de l'eau au Sahara, et d'autre part, dit-il, l'opposition entre ethnies riches est grande et ethnie pauvre et petite n'est pas si idiote que ça, puisqu'en France, il est vrai que des populations pauvres sont souvent petites, exemple les Bretons, alors que des populations riches, comme les Alsaciens, sont souvent constituées de gens grands. Alors je précise que ça, c'est moi qui ai dit que c'était idiot qu'on n'était pas toujours pauvre et petit et riche et grand, mais moi je suis, Dieu merci, je ne suis pas professeur d'histoire.
Non mais là dans le domaine des ethnies africaines, la question ne se pose pas. Nous avons affaire à des races différentes, ces races nilotiques qui sont des races de grande taille et qui ont conquis l'Afrique orientale et qui ont constitué des États ou qui n'ont pas constitué mais qui étaient à la tête des populations pastorales. Alors, effectivement, l'eau dans le Sahara. Alors, une chose doit être bien vue, c'est que le mythe du Sahara vert n'est qu'un mythe. C'est une image pour la vulgarisation, et je dirais même pour la grande vulgarisation. Le Sahara n'a jamais été vert. En revanche, il n'était pas aussi désertique qu'aujourd'hui.
Il y avait des chapelets d'oasis, peut-être.
Attendez. Le Sahara a été vert il y a 100 000 ans, il y a 200 000 ans. Mais à ce moment-là, l'homme moderne ne vivait pas dans le Sahara. L'homme moderne vit dans le Sahara, dans ces régions d'Afrique, depuis 30 ou 35 000 ans. Et dans cette dernière partie de l'ère quaternaire que l'on appelle l'Holocène, et l'on sait que lorsque l'homme moderne a commencé à vivre dans le Sahara, le climat a varié de la steppe au désert. Mais en revanche, le désert s'étendait beaucoup moins vers le sud. Et en revanche, également, il y avait encore des milieux de vie dans le Sahara. La meilleure preuve qu'il y avait des milieux de vie dans le Sahara, c'est que les premières expériences néolithiques africaines ont été faites dans le Sahara, il y a 7 ou 8 000 ans, dans des milieux refuges qui conservaient encore un peu d'humidité, soit certaines cuvettes près des lacs, soit les parties hautes du Sahara. Ce que l'on sait également, c'est qu'il y a 12 000 ans, le Sahara et la partie nord de l'Afrique ont connu la dernière grande phase humide. Et il y a 12 000 ans, le lac Tchad était aussi vaste que la mer Caspienne. Le nord de la boucle du Niger était un immense lac. La vallée du Sénégal était une vallée lacustre. Et en Afrique orientale, existait un immense lac nilotique qui allait de l'Ouganda jusqu'à la Tanzanie, qui englobait le lac Victoria, il y a 12 000 ans. Et ensuite, tous ces lacs se sont réduits et l'aride actuelle a commencé. L'aride actuelle, avec des mouvements de haut et de bas, mais sur la longue durée, l'aride actuelle débute il y a environ 10 000, 12 000 ans.
Je pense que c'est des choses qu'on voit d'ailleurs très bien dans les cartes de votre atlas.
L'évolution de cet aride, l'évolution du Sahara, l'avancée, le recul.
Naturellement, beaucoup de questions, professeur Lugan, sur l'Afrique du Sud, puisqu'on sait que c'est un de vos sujets favoris.
Oui,
j'ai écrit plusieurs livres.
J'y repars dans quelques jours.
Alors, je les prends dans l'ordre où elles viennent. L'Afrique du Sud était-elle, ça c'est une vieille question qui revient tout le temps, l'Afrique du Sud était-elle habitée ou non lors de l'arrivée des premiers blancs protestants, nous demande cette auditeur.
Ah non, les protestants, il y a eu les Hollandais avant, l'éditeur veut dire sans doute lors de l'arrivée des Huguenots en 1688. Mais en 1652, lorsque les Hollandais s'installent au Cap, lorsqu'ils fondent le comptoir du Cap de Bonne-Espérance, il n'y a pas de Noirs dans toute la moitié actuelle de l'Afrique du Sud. Il y a une autre population, c'est la population des Khoïsans, celle qu'on appelle d'un terme désuet les Bushmen ou les Hottentots, quelques groupes de 10, 15, 20 personnes qui sont des chasseurs, cueilleurs, récolteurs, qui saupoudrent l'espace, qui sont fort peu nombreux, mais il n'y a pas de Noirs dans cette partie sud de l'Afrique du Sud. Je le montre bien dans mes cartes, les Noirs occupent à ce moment-là toute la zone qui est comprise au nord de Bloemfontein, et la zone qui est comprise au nord de l'actuelle Ciskaye. Et la frontière entre les Noirs et les Blancs se fixe et s'établit en 1775, quand les avant-gardes blanches entrent en contact avec les avant-gardes noires qui descendent du nord. Et cette frontière, je la donne sur mon atlas, est matérialisée à partir de cette époque. Elle va tantôt avancer vers le sud, le front pionnier noir va empiéter sur le territoire des Blancs, tantôt sont les Blancs qui vont empiéter sur le territoire des Noirs, mais historiquement, nous savons très bien où la rencontre s'est faite. Et au fur et à mesure de l'avancée des uns et des autres, ont été broyés, ont été supprimés la population indigène de l'Afrique, pas uniquement de l'Afrique du Sud, mais de toute l'Afrique australe, de toute l'Afrique centrale, de toute l'Afrique orientale. C'est donc ces Khoïsans, ces Bushmen, ces Hottentots, qui vont se retrouver en Afrique australe, broyés entre les deux fronts pionniers. Le front pionnier noir venu du sud, et le front pionnier blanc montant du nord. Et le front pionnier blanc va dans une certaine mesure...
C'est le contraire.
Oui, le front pionnier noir venant du nord, descend du nord, et le front pionnier blanc remontant du sud. Mmh. Et le front pionnier blanc remontant du sud va dans une certaine mesure sauvegarder, si l'on peut dire, un certain nombre de ces peuples qui précédaient les Noirs et qui ne sont pas des Noirs, et c'est à ce moment-là que se fait le métissage qui donne naissance aux 2,5 millions de métis d'Afrique du Sud, qui sont des métis de blancs et de Khoïsans, donc de blancs et de Bushmen, de Hottentots, mais non pas de blancs et de noirs. C'est pour cela que ces métis sont des métis qui ont la langue des Afrikaners, l'Afrikaans, et qui ont des noms Afrikaners.
Alors Philippe Varley, qui est comme moi un fondamentaliste biblique et qui est en tient pour l'inhérence et qui d'autre part est pas loin d'être crombétiste, il n'est pas choqué du tout, nous dit, à raison de 3 générations par siècle, si les hommes existaient il y a 35 000 ans, comme le professeur Lugan le dit, nous serions aujourd'hui plusieurs milliers de milliards d'habitants.
Ah, mais l'homme existe depuis plus de 35 000 ans.
Philippe Varley n'est pas d'accord.
Ah oui, mais...
Il pense comme moi que l'homme existe depuis 6274 ans.
Oui.
Comme la Bible nous l'a dit.
Bon, écoutez, alors, vous voulez qu'on discute de ça ou pas?
Peut-être pas, on peut remettre
un
une autre émission. À moins que vous ayez quelque chose de définitif à nous opposer.
Ah oui, l'homme moderne, c'est-à-dire l'homo sapiens sapiens, c'est-à-dire nous, existe depuis 100 000 ans.
Ça m'étonne pas que j'ai des rhumatismes.
Il existe depuis 100 000 ans au Proche-Orient, en Europe et en Afrique du Nord, et il existe depuis 60 000 ans dans la région du Sahara, et là-dessus, il n'y a absolument aucun doute. Si vous ne dites pas ça, vous faites tout ce que vous voulez, mais vous ne faites pas d'histoire. Vous faites autre chose.
Ça tombe bien, ni Philippe Varley ni moi ne faisons d'histoire. Nous nous contentons de lire les articles du professeur Lugan dans le Libre Journal.
Oui, non, mais ça.
Et puis d'en présenter.
L'homme moderne, l'homo sapiens sapiens, bon, dans l'état actuel des connaissances, est présent depuis 100 000 ans.
Et en 100 000 ans, il n'a pas appris plus que ça. C'est plutôt consternant. Alors, je continue sur l'Afrique du Sud. Après, on viendra à l'Algérie où il y a des questions aussi, quoique c'est un problème un peu différent, même carrément différent. Que pense le professeur Lugan de l'attitude du chef Zulu Buthelezi qui a annoncé le 6 décembre dans le Financial Times qu'il se proposait de se retirer de la politique?
Oui, mais à l'heure actuelle, ce qui se passe en Afrique du Sud, c'est que le chef Buthelezi s'est un petit peu mis en retrait au profit du roi des Zoulous. Parce qu'il faut bien voir une chose, et là encore, vous ne le lirez nulle part, les Zoulous ne constituent pas un bloc homogène. De même que les Kossa qui supportent Nelson Mandela ne constituent pas un bloc homogène. L'on peut dire que 70% des Zoulous sont derrière l'Inkatha, donc combattent l'ANC, et 30% des Zoulous sont à l'ANC. Tout simplement parce que cette division est une division qui date du 19e siècle, quand en 1879, les Britanniques ont franchi la frontière du Zoululand pour aller combattre les Zoulous, eh bien, ils avaient avec eux une partie de Zoulous. Et ces Zoulous, qui sont considérés comme des traîtres par les Zoulous du Zoululand, sont des Zoulous qui vivent dans le Natal et qui ont vécu dans le Natal anglais et qui ont été des auxiliaires de l'armée britannique contre leurs frères Zoulous. Tout simplement parce qu'il y avait des problèmes de clans royaux et de rivalité royale entre eux. Ce qui fait que ces Zoulous qui sont restés dans le domaine anglophone, par haine des autorités traditionnelles Zoulous du Zoululand, ont joué la carte de l'ANC. Mais, ces Zoulous pro-ANC n'auraient jamais obéi au chef Buthelezi. Mais en dépit de leur appartenance à l'ANC, une bonne partie de ces Zoulous pro-ANC se reconnaît quand même dans l'autorité supérieure du roi.
Là, on est au cœur des problèmes africains.
Et c'est pour cela que vous voyez de moins en moins Buthelezi apparaître et que vous voyez de plus en plus le roi des Zoulous apparaître. Et le roi des Zoulous a prononcé un discours de guerre le 16 décembre 1993. Le 16 décembre, c'est la date anniversaire de la nation, vraiment la fondation de la nation Boer, avec la victoire de Blood River sur les Zoulous. Mais ce jour-là, le jour où les Afrikaners étaient rassemblés à Blood River pour célébrer leur victoire sur les Zoulous, le roi des Zoulous a rassemblé son peuple à Isandlwana. Isandlwana, c'est un lieu qui est magique pour les Zoulous, car c'est là où ils ont écrasé l'armée anglaise en 1879. Ils ont véritablement écrasé la force de pénétration britannique dans le Zoululand, et le roi des Zoulous a rassemblé son peuple. Et il a tenu le discours suivant. Malheureusement, je ne l'ai pas porté, j'aurais dû le porter pour vous le lire. Il dit, moi, roi des Zoulous, je ne vais pas accepter, alors qu'en ce lieu, nous avons vaincu l'armée la plus puissante du monde, je ne vais pas accepter que les politiciens de Pretoria donnent la victoire par les urnes à nos ennemis de toujours, sous-entendu les Kossa, nos ennemis de toujours que nous avons toujours militairement battus. Et il dit en conclusion, je vous donne l'ordre de résister à ce phénomène qui se déroule. Donc il a fait un appel aux armes. Ce qui fait que la nation Zoulou est quasiment sous les armes également.
Alors vous venez de répondre en prime, si j'ose dire, à deux questions qui suivaient. Posait la question de l'attitude des Zoulous urbains, dont on dit, dans les médias, nous explique qu'ils sont en faveur de Mandela.
Ah pas du tout. Les Zoulous urbains sont ceux justement. Pourquoi y a-t-il des morts dans les villes? Mais c'est parce que tout le monde n'est pas ANC. Si tout le monde était pour l'ANC dans les villes, il n'y aurait pas de morts. La chape marxiste serait abattue sur les villes. Non, il y a des luttes dans les townships, tout simplement parce que les Zoulous qui vivent dans les townships sont des Zoulous qui sont venus faire leur service militaire dans les townships. Ça mérite une parenthèse. Jusque dans les années 70, l'ANC contrôlait quasiment tous les townships dans les grandes villes, autour des grandes villes d'Afrique du Sud. Et les Zoulous ont commencé à comprendre à ce moment-là que s'ils ne se décidaient pas à envoyer des hommes dans ces grandes villes, ils allaient se retrouver réduits dans leur Zoululand et ils allaient perdre toute influence sur le cœur du pouvoir politique qui est à Pretoria ou à Johannesburg. Jusqu'à présent, c'était les Kossa qui étaient les travailleurs migrants qui venaient travailler dans les mines. Les Kossa et les Soto, qui étaient donc pris en main par l'ANC. Et à partir des années 70, les Zoulous sont groupés en régiments, les Impi, par classe d'âge. Et les chefs Zoulous ont décidé d'envoyer des classes d'âge faire leur service militaire dans le Rand. C'est-à-dire, ils les envoyaient pour qu'ils travaillent dans les mines ou dans les industries. Mais en fait, c'était des milices qui partaient du Zoululand. Et ces milices se regroupaient dans des positions stratégiques dans les townships dans des immeubles qu'on appelait les hostels, qui étaient réservés aux travailleurs célibataires migrants. Ce sont en fait des casernes pour miliciens Zoulous. Et ces miliciens Zoulous obéissent au doigt et à l'œil à l'Inkatha. Moi, je les ai vus en action à Alexandra lors de mon dernier passage. C'est absolument terrifiant. J'ai assisté à une bataille entre l'Inkatha et l'ANC et j'ai vu comment ces régiments Zoulous, ces Impi sont sortis des hostels et comment ils ont mis la pâtée aux hommes de Nelson Mandela. Mais il y a eu un nombre de morts absolument incroyables. Ils sont étripés sous mes yeux. Et l'on ne peut pas dire que les Zoulous urbains soient pro-ANC. Non. Pas du tout. Il y a chez les Zoulous...
On comprend enfin certaines images qu'on voit, parce que c'est très frappant de voir, quand on nous parle de révolte dans les townships,
dans les townships, dans les cités noires.
On pense qu'on va assister à une espèce de grouillement hystérique de combattants et tout. Or, on est frappé de voir que, en réalité, tout ça semble obéir à des mots d'ordre très précis, et que certains...
Des deux côtés.
Des deux côtés, et oui, et qu'il s'agit véritablement...
D'une guerre civile.
D'une guerre civile avec des armées face à face.
C'est une guerre tribale, c'est la guerre de l'ANC et des Kosa contre les Zoulous de l'Inkatha.
Alors, un auditeur dit, félicitations au professeur Lugan, sa connaissance de l'Afrique en général est extraordinaire. En revanche, en ce qui concerne l'Afrique du Sud, il nous prédit régulièrement une explosion, et en réalité, il ne se passe rien, et le plan mondialiste semble se mettre en place inexorablement.
Ben, l'explosion, elle se déroule dans la mesure où la violence a été décuplée, dans la mesure où, souvenez-vous ce que je vous disais il y a deux ans, je vous disais, nous sommes à la veille de la véritable violence. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud est un pays qui connaît une criminalité plus importante que les États-Unis. Le problème, c'est que l'Afrique n'intéresse plus personne. L'Afrique est sortie de l'histoire. Donc, ce qui se passe aujourd'hui en Afrique du Sud aurait fait la une des journaux il y a 3 ou 4 ans. Mais maintenant, on n'en parle plus, puisque le plan mondialiste est justement de supporter de Klerk et Mandela. Donc, le plan mondialiste ne peut pas dire qu'on s'étripe plus que jamais en Afrique du Sud, puisque de Klerk et Mandela, par définition, vont ouvrir les fontaines desquelles le lait et le miel de la fraternité universelle vont couler. Ce qui fait que l'on ne... Si vous voulez, lorsqu'il y avait 3 morts dans un township en 1980, l'on faisait des flashs spéciaux sur les radios et les télévisions. Aujourd'hui, il y a 100 ou 150 morts par jour en Afrique du Sud, mais on n'en parle plus. Et puis, deuxième élément, la guerre civile va éclater. Elle va éclater tout simplement parce que les élections ont lieu le 26, 27, 28 avril et que ni les Zoulous ni la droite blanche ne peuvent laisser les élections se dérouler, car si les élections se déroulent, par le type de scrutin qui est prévu, qui va donner la victoire à ceux qui sont implantés nationalement aux dépens de ceux qui sont implantés localement, les Zoulous et les Blancs sont balayés. Si les Zoulous et les Blancs laissent passer les élections, ils ont perdu. Ils sont donc condamnés à déclencher le mouvement de sécession avant les élections. Et s'ils le déclenchent, c'est la guerre.
Alors malheureusement, il nous reste très très peu de temps, il nous reste 2 minutes, on ne peut pas citer toutes les questions qui sont arrivées, mais je vais quand même les indiquer très rapidement pour montrer la qualité de l'auditoire, en dépit du fait que cette émission est dirigée par ce que vous savez. Un auditeur dit, que pensez-vous d'un point de vue ethnographique de la première dynastie Tinite ? Première dynastie égyptienne, est-ce que y avait-il avant cette dynastie une autre plus ancienne ? Comment était le premier peuplement ? Et là je vois bien... D'où vient cette question? Voilà, c'est un sujet que je connais tout petit peu. Les premiers rois, demande cet auditeur, étaient-ils blancs ou rouges? Ah, ça, c'est un vieux débat, on va peut-être pas rentrer, on n'a pas le temps. On vous demande ce que vous pensez du dictionnaire géopolitique d'Yves Lacoste. Pas d'opinion. Quelle est l'épaisseur en moyenne des sables au Sahara, nous demande un auditeur. Ça dépend sous quel pont.
Oui, il n'y a pas des sables partout.
Pourquoi les Israéliens peuvent-ils cultiver dans le sable contrairement aux Africains? Bonne question, je vous remercie de l'avoir posée.
Ah, mais les Africains cultivent également dans le sable.
Également, alors on nous pose la question des événements en Angola et on nous pose une question très fine. Les problèmes sont-ils racistes ou raciaux, nous demande-t-on?
Bien, en Angola, je ne sais plus quelle page de mon atlas, j'ai une carte complète qui a pour titre Angola, la guerre ethnique. Et je montre que la guerre d'Angola est une guerre qui repose justement... La partie se joue à 3. Angola, la guerre ethnique, page 74. Et je montre que les 3 principales ethnies d'Angola ont chacune leur mouvement politico-militaire et que la guerre est sans issue et qu'il faudra bien là aussi arriver à la partition si on veut un jour que la paix soit rétablie en Angola.
Une auditrice demande qu'on parle de l'histoire du prêtre Jean en Éthiopie, mais c'est impossible.
Il faudrait une émission complète.
Dans 30 secondes, oui. On nous demande aussi de votre opinion sur l'Algérie, mais là c'est un autre problème. On fera une émission sur l'Algérie prochainement, si vous voulez y participer, si vous êtes revenu d'Afrique du Sud, professeur, vous y êtes cordialement invité. Et enfin, dernière question, en 30 secondes, que faut-il penser de l'AWB en Afrique du Sud?
Bien, l'AWB est un mouvement qui est présenté pour ce qu'il n'est pas. Son insigne, qui est présenté abusivement comme étant une svastika, est un insigne qui est composé des 3 sets bibliques. Les références aux 3 sets bibliques et aux 2 dimanches, donc le 7e jour de la semaine, quand s'est fait la nation africaneur, car les 2 grands événements historiques, la bataille de Blood River et la victoire d'Amajou Bahil sur les Anglais, ont été remportés un dimanche, donc le 7e jour de la semaine, donc les 3 sets entremêlés. C'est un mouvement au départ culturel, de défense culturelle africanaire, qui s'est transformé en mouvement de résistance. C'est un petit mouvement qui fait partie de l'ensemble qui est regroupé dans l'Alliance pour la Liberté. Et dans ce front du refus, l'AWB est une des composantes du nationalisme afrikaner.
Merci professeur. On fait l'inversion de bande et puis on termine.